Bon, bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde sur le jeu et la créativité. Alors, il y a une idée reçue qui court, qui consisterait à dire qu'en fait, notre cerveau, qui est partagé en deux hémisphères, se partage les tâches. Le cerveau gauche, lui, serait consacré à tout ce qui est logique, organisation. Et puis, le cerveau droit, ce serait l'imagination, la créativité, la passion. Bon. Les neuroscientifiques ont mis un petit peu d'ordre dans tout ça, et puis ils nous ont dit qu'en fait, le cerveau était impliqué tout entier dans les processus de créativité. C'est-à-dire qu'il utilisait plein de petites zones, réparties absolument dans les deux hémisphères, qui travaillaient en équipe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, dans le cadre de ces utopiales qui sont consacrées à l'intelligence, pour moi, c'était important d'aborder la question de la créativité, et notamment de l'aborder sous un angle ludique, puisqu'on va voir comment le jeu et tous les types de jeux peuvent stimuler, booster notre créativité. Donc pour aborder cette question, j'ai quatre invités de prestige avec moi. Alors bon, on va commencer par le plus éloigné. Donc je vous présente Jérôme Brand-Larré, qui est auteur de jeux de rôle avec une activité d'édition. Il a créé notamment le jeu de rôle Tinga, il participe et crée aussi le jeu de rôle Ryutama, donc en collaboration avec l'auteur au Japon.
Oui, c'est essentiellement une traduction et on a rajouté des petits trucs en plus.
Voilà. Et puis, donc beaucoup d'activités aussi, d'ateliers, de jeux, d'un peu toutes sortes. On a aussi Thomas Munier avec nous. Donc Thomas Munier qui est l'auteur notamment de Milvo, et d'Influenza, qui a créé aussi Marin de Bretagne plus récemment, donc avec un concept de livre fabriqué, etc. Et qui travaille énormément sur la créativité, notamment via son blog Outsider, donc, voilà, qui explore un petit peu les différents champs que peut prendre le cerveau pour créer. On a avec nous également Isabelle Perrier. Donc Isabelle Perrier qui a une triple casquette, à la fois comme auteure de jeux de rôle, notamment Westland ou Mondblade, et puis également universitaire, prof, donc chercheur, et puis également enseignante en lettres modernes. Classique, pardon. Oula. Pardon, toutes mes excuses. Et puis pour finir, on a avec nous Eric Minguet, donc, qui lui a une activité fort variée en termes de jeux, hein, du jeu vidéo au jeu de rôle en passant par les jeux de plateau, et qui est également formateur, donc qui œuvre dans la formation pour adultes. Et donc je pense qu'on va pouvoir beaucoup parler du jeu dans ce cadre-là. Alors la première question que je voulais vous poser à tous les quatre, c'est d'abord à quoi est-ce que vous jouez? Quels sont les jeux qui vous attirent? Quel type? Quels univers? On peut faire un petit tour de table? Vous battez pas.
Voilà, moi je suis une abominable joueuse, donc j'ai commencé petite comme tout le monde avec beaucoup de jeux de société. Je me souviens d'avoir appris à compter en jouant aux petits chevaux. Voilà, aux dames, tout ça. J'ai rencontré au lycée des copains qui m'ont initié au jeu de rôle, donc le jeu de rôle aussi. Je suis tombée dans la Nintendo quand j'avais 10-11 ans. Bloop. Et quand j'ai découvert Diablo, ça a changé. Le hack and slash, en gros, on va bourrer du mob et ça va bien se passer. Voilà. Et puis à un moment, je suis tombée dans le MMO. Et puis, les cartes aussi. Mes élèves qui peuvent faire des voyages avec nous savent que le soir, c'est tournoi de tarot, parce que c'est important. Et c'est très formateur, d'ailleurs. Et voilà, donc je joue à peu près tout et n'importe quoi. Et là, je viens de mettre le pied dans la communauté de jeux vidéo la plus épouvantable du monde, à savoir League of Legends. Et c'est sympa.
Bon, je suis un peu comme toi, hein. J'ai une vie d'addict au jeu depuis tout petit. D'ailleurs, c'est un peu un truc familial, hein. J'ai même une maman qui a fini deux fois Dungeon Master. Donc on est dedans tous. Et effectivement, moi, c'est aussi le prisme du jeu dans son ensemble, hein, jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de plateau. Alors moins de jeux de figurines, c'est un peu plus encombrant et nécessite plus de temps. Mais surtout beaucoup de jeux de rôle Effectivement, c'est quelque chose que j'arrive à transposer au milieu professionnel au travers de la formation. On pourra parler de ça.
Thomas ?
Alors moi, personnellement, j'essaie un peu de tout. Hein. Je pense que c'est important dans la vie d'essayer un peu de tout et n'importe quoi, tant que ça ne vous rend pas trop dépendant. Moi, le seul truc qui m'a rendu bien accro, c'est le jeu de rôle, mais sinon, je suis toujours prêt à expérimenter de nouvelles formes ludiques. Hein.
Jérôme ?
Alors, c'est un peu pareil, je suis un peu monomaniaque, mais en série. Et d'un peu tout ce qui traîne. Après, ce qui a changé, c'est des questions logistiques. Effectivement, il y a un moment où il a fallu ranger les figurines. Il y a un moment où les jeux de plateau, bah, quand il a fallu amener les potes à la maison pour jouer à plusieurs, on pouvait aussi faire du jeu de rôle. Et c'est vrai qu'on a tendance à plus faire du jeu de rôle. Là, le drame de ma vie, alors c'est pas League of Legends, c'est le jeu par hangout. C'est les parties de jeu de rôle par hangout. On n'a même plus besoin de faire venir les potes, quoi. C'est fini.
Alors, au-delà de cette activité de jeu, donc vous avez tous des activités de création à des niveaux divers et dans des domaines divers. Est-ce que cette notion de créativité, c'est quelque chose de si évident que ça ? Peut-être que ça vaudrait le coup de définir pour vous comment vous le voyez et comment vous l'employez, la créativité ? Question un peu plus taquine.
Bon, je vais attaquer parce que c'est un mot qui résonne d'une manière assez étonnante aujourd'hui. Je bosse dans le privé et en tant que salarié du privé, par moment, il faut motiver son employeur. Et je dirais que le mot de créativité, c'est un mot qui, comme le mot innovation d'ailleurs aujourd'hui, ont un intérêt particulièrement efficace à l'oreille de l'employeur. Donc quand je veux passer notamment des propositions d'organisation de mon travail ou ce genre de choses, eh bien, je vais notamment utiliser ce mot-là. On est dans une démarche dans mon entreprise où effectivement il y a beaucoup ce système de mise en œuvre de, on va dire, de la matière grise individuelle. Et effectivement, c'est devenu pour moi un terme qui a une résonance extrêmement efficace.
C'est presque politique en fait.
C'est devenu politique.
Pas là-dessus que...
Tout à fait, ça m'a intéressé de ce point de vue-là.
Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, c'est devenu vraiment un élément de langage, mais qui finalement va... Est-ce que ça recouvre des choses très précises dans la tête des dirigeants ou est-ce que c'est quelque chose de très vague ?
L'objectif, c'est de se distinguer dans le cadre d'un marché économique. Et effectivement, c'est par ce biais qu'on va attirer des commanditaires... qui vont trouver notre démarche intéressante, nouvelle, et surtout impliquante pour les gens qui vont être en formation avec nous.
Pour les autres, est-ce que vous êtes peut-être sur une approche un peu différente ?
Moi, j'ai une approche un peu peut-être déprimante, enfin, peut-être un peu tradie. Enfin, la créativité, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, et en fait, on en fait... un gros pataquès. Moi, je croise mes élèves qui me disent « j'ai pas l'inspiration ». Donc, ils en profitent pour rien écrire. Et je leur explique que oui, mais enfin, en gros, les gens qui sont « créatifs », entre guillemets, c'est quand même 95% de travail, 98%, et 2% éventuellement de « ah, ce matin, en mangeant mes cornflakes, j'ai une super idée ».
Pas un talent inné, en fait, quelque chose qui se travaille.
Voilà,
aussi.
Donc moi, je vois la créativité quand même comme une espèce de grande... Parce que je suis littéraire à la base, et une grande usine d'intertextualité, de recyclage, finalement, et que c'est surtout du travail, de la connaissance, et aussi, comment dire, la créativité, pour moi, ça s'appuie sur de la technique, sur un savoir-faire, sur quelque chose... Enfin, ça vient pas comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est un peu... C'est pas très poétique, en fait.
Ouais, je te rejoins assez là-dessus. C'est quelque chose... Enfin, là... La créativité, c'est un peu comme la chance, ou l'inspiration, c'est un peu comme la chance, c'est une compétence en fait. C'est une capacité à se mettre en. Alors, soit on a justement beaucoup de cornflakes, soit c'est une capacité à se mettre en état de recevoir des choses, de faire des liens, d'être une éponge, de voir, j'en sais rien, de faire le trajet jusqu'à Nantes, d'écouter la radio et d'avoir des idées en faisant ça. Alors, pour moi, ce matin, c'était mort, hein, mais je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui, en écoutant la radio, ils ont des idées de jeux, de choses à faire, de choses à raconter, de blagues, de n'importe quoi. Voilà, et je te laisse peut-être le micro, mais
n'hésite pas
à rejoindre sur le
micro. Parce que ça peut même être une malédiction.
Ouais, c'est clairement le cas, ouais.
Alors, oui, Thomas, tu voulais ajouter peut-être.
Alors, concernant la créativité, on prend n'importe quel mot du dictionnaire. Je pense qu'aucune personne dans la salle n'aura exactement la même définition. La créativité, c'est exactement le cas. Je vais juste donner la définition que je me suis bricolée, qui m'aide à travailler, quoi. Ma définition personnelle de la créativité, c'est on a des expériences, des choses qu'on voit, qu'on ressent. On a tous un ressenti différent de l'expérience qu'on va avoir, quoi, en fonction de notre personnalité, de notre vécu, de nos sens. Et en fait, la créativité, c'est retranscrire cette expérience. Sous quelque forme que ce soit, en fait, généralement c'est sous la forme d'une transformation, c'est-à-dire que soit on va se transformer soi-même, soit on va transformer des objets, enfin le monde autour de nous, ou soit on va transformer d'autres personnes. Bon, généralement, c'est un subtil mélange des trois.
Alors, du coup, si on revient un peu sur les jeux, est-ce que la grande variété de jeux que vous avez pu, dont vous avez pu parler au début, la grande variété de jeux existantes, sont un bon terreau ? Est-ce que ça fait un bon cornflakes, justement, ou une bonne base de départ pour, justement, cette transformation ? Est-ce que, pour vous, ce grand éventail, c'est un atout ? Et est-ce que c'est aussi pour ça que vous jouez ?
Moi, il me semble qu'il y a un truc qui est super important dans le jeu et qu'il définit assez souvent, c'est l'attitude qu'on a, c'est-à-dire le côté... joueur, alors ça peut aller de... Quand on dit quelqu'un qui a une attitude joueuse, ça peut être ça peut aller de l'impertinence à la frivolité. Mais c'est le fait, en fait, de quelque part, d'une part, d'aimer résoudre des problèmes ou gérer avec des contraintes qui sont pas forcément indispensables et d'autre part, penser en dehors du cadre ou se dire, ok, c'est quoi vraiment le cadre ? Ça revient un peu à la même chose les deux, hein. Mais pour moi, s'il y a un lien entre le jeu et la créativité, c'est essentiellement ça.
Alors du coup, est-ce que le jeu pose le cadre ou est-ce que justement il incite à sortir du cadre quand on y prend, je sais pas, un jeu de rôle avec un univers donné futuriste ou médiéval fantastique, est-ce que ça pose un cadre ou est-ce que...
Alors en tant que personne qui en vend, je dirais oui, surtout respectez-le et achetez-en plein. Dans les faits, tout dépend si, pour reprendre l'expression, hein, c'est bateau, mais si on joue le jeu ou pas, en fait. Et à quel jeu on joue, quoi.
Isabelle ?
Pour rejoindre les gens, je trouve que l'idée du cadre, c'est vachement important, hein, les règles, tout ça. Et de toute façon, pour transgresser, il faut qu'il y ait un cadre. Voilà. Donc si on commence à jouer en disant bah, on joue, il y a des règles, non, bah, on va pas jouer parce que c'est juste pas possible, en fait.
Voilà, jamais plus loin,
même si c'est pour les transgresser, réécrire les règles du risque, je sais pas moi, jouer à la bataille aux dames, enfin un truc complètement débile, de toute façon il faut qu'il y ait un cadre à transgresser quelque part.
Eric ?
En fait, je crois que la réappropriation du cadre, c'est souvent la partie la plus créative qu'on a, et moi je me suis rendu compte que ado, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, qu'un jeu ne me suffisait pas dans sa conception initiale et qu'il fallait que je l'exploite au-delà. Et c'est une des limites, d'ailleurs, que je trouve aux jeux vidéo. C'est cette limite de cadre dans lequel je peux pas aller plus loin.
Alors oui, justement, il y a des jeux qui doivent favoriser plus ou moins que d'autres. Donc le jeu vidéo, tu dis moins. Est-ce qu'il y a des jeux qui favorisent plus ?
Bah pour moi, le jeu de rôle. Hein, c'est le jeu de rôle qui va remporter la palme, à la fois dans mon cœur et parce que c'est effectivement quelque chose dans lequel, en tant que maître, que maître du jeu, je vais favoriser très... Je suis maître. Je vais favoriser cet espace de liberté et éviter d'apesantir la notion de règles sur le dos des joueurs. Quoi.
Peut-être juste une mini interruption. Tu peux peut-être nous dire justement les petites spécificités du jeu de rôle, parce que je ne sais pas, il n'y a peut-être pas que des rôlistes dans la salle. Justement, par rapport à cet aspect de maître de jeu et de joueur, tu peux préciser un petit peu.
Alors, une petite explication sur le jeu de rôle, tout simplement. Ok. Donc, le contexte va être assez boutonneux, avec des dés, des tables. Donc, concrètement, on va réunir quelques personnes autour d'une table. Le tout va être mené par quelqu'un qui va avoir plus ou moins écrit quelque chose, s'appuyant sur un contexte qui va être soit quelque chose qu'il a acheté, soit quelque chose qu'il a pu créer lui-même. Le tout organisé autour de règles, essentiellement jouer avec des dés. On a d'autres systèmes de jeu possibles. Ceci étant, donc, on va avoir quelqu'un qui propose un univers et des gens qui peuvent jouir de cet univers en étant autonome ou presque. Tout dépend de ce que laisse le maître de jeu comme liberté. Et c'est justement un enjeu assez important aujourd'hui, je pense, notamment dans l'univers indie du jeu de rôle. C'est où est-ce qu'on apporte la créativité du joueur, son appropriation du jeu. Et là-dessus, j'ai d'ailleurs, sans vouloir faire de pub, il y a un jeu qui m'a particulièrement marqué cette année, qui est un jeu qualifié indie, qui s'appelle Oltre, qui oblige donc le développeur, enfin le maître du jeu, à utiliser ce qu'on appelle un sandbox. En gros, il a des outils pour créer un monde qu'il va définir. Et dedans, ces joueurs, par des mécanismes de règles, vont pouvoir prendre la main sur la narration. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi, je trouve. Je n'avais jamais rencontré cette possibilité-là, dans le sens où le maître du jeu, habituellement, guide la narration dans laquelle ses joueurs vont interagir, mais là, c'est le maître du jeu qui se fait expulser et le joueur va faire la narration à sa place. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant.
On pousse à l'extrême cette appropriation du cadre, en fait.
Ça.
Thomas, tu voulais réagir ? Tu es d'accord avec
la définition du jeu de rôle, top, nickel. Je vais juste réagir sur la variété des jeux, ta première question, puis sur le cadre. Concernant la variété des jeux qui sont à disposition, en plus on voit que c'est vraiment explosif. Hein, ne serait-ce que les 10 dernières années, on commence à avoir des jeux cross-média, trans-média. Tous les jeux qui existent commencent à se développer dans diverses variétés. On a parlé du jeu de rôle avec des nouvelles formes qui apparaissent, mais je pense qu'on prend le jeu de société. Là, en 10 ans, la variété de ce qui est proposé, c'est devenu complètement dingue. Et en fait, l'intérêt pour la créativité, c'est que, comme je l'ai exprimé, être créatif, c'est faire un retour d'expérience. Donc, si vous voulez être créatif, vous allez justement rechercher des expériences nouvelles et des expériences qui vous parlent. Donc forcément, la variété de ce qui est proposé en jeu, ça propose des expériences, justement, elle est forcément intéressante. Quoi. Et concernant le cadre, je crois que la plupart des jeux, en fait, ils posent une question, ils disent « voici le cadre, et toi, qu'est-ce que tu ferais, en fait, dans ce cadre ?» Donc c'est une véritable invitation à s'exprimer, quoi. Ça va de chat perché, voilà, qu'est-ce que tu ferais ou la balle aux prisonniers, voilà, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans un camp et que les gens te balançaient des ballons, sachant que si tu les balances, ça va t'exclure, comment tu vas te comporter. Et on parlait du jeu de rôle, ça c'est vraiment la question du jeu de rôle. Quoi. Voici un cadre qui peut être hyper hyper vaste, hein, mais il y a des jeux de rôle où le cadre il est ultra réduit. Hein. Il y a des jeux de rôle, on va jouer une soirée, ça se passe dans un lieu précis. Bon, je prends l'exemple des soirées enquête. Et donc... En fait, la créativité, de toute façon, c'est s'exprimer. C'est-à-dire qu'on donne un retour, on donne son retour d'expérience, quoi. Donc forcément, comme les jeux invitent à s'exprimer, ils sont tout à fait adaptés pour rendre les gens créatifs.
Jérôme ?
Alors, peut-être deux remarques sur le cadre et sur le jeu de rôle. Sur le cadre, pour parler plus concrètement, un exemple, moi, je prends souvent, c'est celui de la ville. La cité qui est à côté de chez vous, ou qui est, j'en sais rien, de l'autre côté du fleuve, ça n'a pas l'air super sexy, a priori. J'en sais rien, enfin je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, pour un gars obèse qui se promène en ville, c'est pas génial, quoi. Par contre, regardez les mecs qui font du parcours. Pour eux, c'est plus juste une ville ou une cité. C'est un espace rempli d'opportunités, rempli de... Alors après, je ne sais pas trop vous dire, hein, parce que je n'en fais pas très souvent, moi, du parcours, mais globalement... Il y a plein de choses à faire et on est en plein justement dans l'appropriation. Le jeu de rôle, tous les jeux en fait font plus ou moins ça ou définissent le cadre. Et le jeu de rôle fait ça avec, en gros, plus ou moins tout ce qu'on peut imaginer. Et le jeu de rôle, c'est pas mal, enfin, ça peut être pas mal. Prenez un truc qui vous a plu, n'importe quoi, et posez une question. Et si ? Et là, c'est le début de la fin. Grosso merdo, vous prenez un roman, ça va vous dire un truc. Alors c'est pas, on peut ergoter là-dessus, hein, mais et vous allez écouter ce qu'on vous dit, vous allez lire ce qu'on vous dit, etc. Vous allez aussi imaginer plein de trucs si vous êtes actif, mais la plupart des jeux, ça va vous poser des questions, ça va vous dire qu'est-ce que vous ferez, enfin ce que disait Thomas, et vous allez commencer à vous approprier le truc. Et le jeu de rôle, c'est un petit truc en plus, c'est que si la question vous plaît pas, vous pouvez envoyer la personne qui vous l'a posée se faire voir. Et vous pouvez en plus vous poser les vôtres. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, en termes de créativité, en fait, j'ai l'impression aussi, comme vous, que c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Après, on aime tous le jeu de rôle autour de la table, donc peut-être que si vous posez la question à des plateauistes, vous aurez notre réponse, quoi.
C'est vrai qu'on a une table très orientée. Après, est-ce que... Oui, mais
moi,
je
veux bien prendre la défense du jeu vidéo.
Bien sûr.
Parce que je pense qu'on peut distinguer deux formes de créativité, une forme de créativité fictionnelle ou littéraire qui est plutôt celle du jeu de rôle, même si on peut tripoter les règles, hein, c'est pas le problème. Et je pense qu'on a aussi une sorte de créativité rationnelle, peut-être instrumentale, qui est celle du joueur de MMO, en fait, parce que je suis une grosse joueuse de... Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi un espace de liberté où il faut mettre des points, trouver du matos. Et c'est pas du tout le même type de créativité. N'empêche qu'il y a des gens qui sont très très forts, qui arrivent... Enfin, souvent, dans ce monde-là, on a des sites, des forums, des gens qui font 150 milliards de comptes rendus, on en lit 25, finalement, tout le monde fait pareil. Donc tout le monde fait pareil, et là il y a un type qui arrive, qui fait un truc n'importe quoi, tout le monde se marre la première fois en le voyant arriver en se disant « Pfff, quel noob !» Et en fait, il va casser tout, il va péter tout le monde, et au bout de 15 jours, tout le monde va faire comme lui. Bon ben c'est ça la créativité aussi, je me rappelle d'avoir joué à Guild Wars 1 pendant très longtemps, où on pouvait associer deux classes de personnages, et parfois ça faisait des choses n'importe, puis il y avait des centaines de compétences, et c'était, je sais plus qui faisait ce jeu, ils avaient décidé de ne pas, à moins que ça déséquilibre complètement le jeu, de ne pas fermer les possibilités et de ne pas nerfer les personnages, même si ça faisait des combinaisons très bizarres, contrairement par exemple à Blizzard dans World of Warcraft, où quand ça dérape, il ferme, il casse un peu la créativité. Alors que là, je me rappelle de combinaisons n'importe quoi d'un rôdeur nécromant, et là vous dites, mais c'est n'importe quoi, qui se balade en tapant, en touchant des monstres, et vous dites, mais... Et en fait, ils ouvraient tout, enfin, c'était n'importe quoi. Et ça, c'est aussi une forme de créativité, c'est jouer avec les règles, la rationalité, pour atteindre une perfection formelle, pour surclasser les autres. Hein. Bon.
Et puis, ce que tu nous dis là aussi, c'est que du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir un cadre très souple et un type de jeu très souple. Ça peut être face à des choses qui sont très établies, donc des règles sur un ordinateur ou dans un MMO, mais quand même permettre dans cet espace, finalement, comme avec le jeu de société, d'avoir quelque chose de très varié dans la créativité,
c'est
dans la démarche personnelle.
De la poésie à contrainte.
Juste une nuance par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est évident que j'ai forcé le trait. On peut, alors dans les MMO et dans la plupart des autres jeux vidéo, on peut bien sûr s'approprier encore plus le jeu et avoir d'autres usages. On peut avoir déjà des usages qui ne sont pas des jeux, et à l'intérieur du jeu, on peut faire du speedrun, on peut faire... Enfin, il y a plein de façons de se réapproprier tout et n'importe quoi pour jouer, y compris un jeu. Et effectivement, on peut avoir des cadres très contraignants, on peut jouer avec du travail. Il y a des gens qui essayent de nous forcer à le faire, et ça marche moins bien, mais c'est une possibilité aussi. Oui.
Je voulais juste ajouter un petit détail sur le jeu vidéo. Il y a un espace de créativité que j'ai vu. C'est notamment dans tout le système de mode que les jeux ouverts peuvent proposer. Alors c'est hyper chronophage, hein, évidemment. Mais ceci dit, c'est là où moi j'ai été très happé par la chose. J'y ai quand même vu une contrainte à l'expression de l'imagination. C'est justement le cadre technique. Du jeu vidéo, et c'est là que je pose la limite, vraiment dans le cadre technique qui ne me permet pas forcément d'aller au bout de mes envies en fait en termes d'imagination.
Concernant le jeu vidéo et justement le cadre technique, bon, on voit des fois qu'il y a quand même, comme tu disais Isabelle aussi, il y a des espaces d'appropriation qui sont pas forcément prévus par les développeurs, ou en tout cas qui sont pas au départ l'objectif du jeu. Deux exemples assez connus, il y a le jeu vidéo Portal. Dans Portal, ton personnage, bon, il doit faire des missions, généralement ça allait d'un point A à un point B, hein, si je me rappelle bien. Et il a un flingue très particulier, parce qu'il crée des portails, c'est-à-dire que si je tire sur cette table, et que je tire après sur cette autre table, il y a deux portails qui s'ouvrent, et si je saute sur la table là, je vais me retrouver là.
On va éviter de se casser une jambe ici. Hein.
Et en fait, du coup, il faut créer des portails pour réussir à sortir d'espèces de puzzles logiques. Et en fait, il y a des joueurs qui jouent à Portal, mais pas du tout pour faire les missions, juste pour faire les cons avec des portails, quoi. Et notamment, il y en a qui ont découvert qu'on pouvait faire une enfilade infinie de portails. Et donc, ils créent un trou infini et ils s'amusent à sauter dedans. Et en fait, leur personnage... Leur personnage est piégé entre des portails dans une espèce de mouvement perpétuel. Alors sinon, beaucoup plus complexe, il y a le jeu en ligne Minecraft, hein, où là, je pense que c'est déjà plus dans l'idée, c'est déjà plus prévu par le jeu, je pense, d'être créatif. Mais je crois que les joueurs se sont vraiment appropriés le jeu au-delà de ce qui était prévu, quoi. Principalement, au départ, le jeu, c'est un jeu de crafting. C'est-à-dire que tu récupères en fait des tout un tas de matériaux, ça peut être de la pierre, du bois, enfin ce qu'on veut quoi. Et il se trouve que c'était pas au départ, c'était assez moche, hein. C'est-à-dire qu'une pierre c'est juste un cube gris, du bois c'est juste un cube brun et tout. Et en fait, tout de suite, il y a des gens qui ont commencé à y voir une sorte de Lego, quoi, et qui se sont mis à faire des constructions beaucoup plus ambitieuses que ce que le jeu prévoyait. Et bon, bah, je pense qu'à mon avis, vous tapez YouTube, Minecraft, je suis sûr que vous voyez des trucs de dingue.
On peut trouver des trésors. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure. J'ai bien aimé l'idée de parcours. Et ça m'évoque un peu le fait que finalement, quand on est sur du jeu, on peut se permettre de faire du parcours en faux. Et à partir du moment où on est dans la simulation, on peut tout tenter, on peut tout faire. Et c'est vrai que ça reprend un petit peu l'exemple de Portal. Soyons fous, on peut partir sur des choses qui seraient totalement inimaginables à la création du jeu. Et puis, tout simplement parce qu'il n'y a pas de notion de risque. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui... est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui libère la créativité, en fait? Le fait qu'on puisse tout essayer sans conséquences?
Moi, je ne suis vraiment pas sûr qu'on puisse tout essayer. Par rapport à ce que tu disais sur la contrainte technique, pour moi, c'est aussi une limite importante, mais elle est plus de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle est plus du côté de la réception. C'est-à-dire, je suis persuadé que quelqu'un qui s'y connaît assez peut... alors, je ne sais pas comment patcher le moteur d'un jeu. Enfin, j'en sais rien, ou l'éditeur, ça dépend du jeu dont on parle. Moi, j'en suis incapable, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui peuvent y arriver. Par contre, ce dont je ne suis pas sûr, c'est que la personne avec qui j'ai envie de jouer puisse accéder au jeu en question. Et ça se passe d'un point de vue... technique, effectivement, sur un jeu, j'en sais rien, un jeu en réseau, un jeu d'ordinateur, j'en sais rien, moi je regarde quasiment tous les soirs les No Life et les tests sur 101%, il y a la moitié des jeux, je pleure parce que je peux pas y avoir accès. L'autre moitié, j'y ai accès, du coup je les achète pas, mais bon, c'est un autre problème. Et sur, je pense que c'est la même chose, notamment en jeu de rôle, il y a des choses avec lesquelles on a juste pas envie de jouer. Je dis pas qu'on peut pas ou qu'on doit pas. Juste la limite, c'est le moment où les gens se lèvent de la table et se barrent, quoi. Et le risque, je pense, il est surtout là.
Alors, est-ce qu'on n'a pas... Je repense à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure. Elle a dit, c'est le principe de la poésie sous contrainte. C'est vrai qu'en littérature, on l'utilise beaucoup, se poser les contraintes. C'est Calou Lipo, par exemple. Est-ce que, du coup, avec le jeu, on n'est pas aussi dans une démarche où on choisit la facilité, c'est-à-dire qu'on va aller vers les jeux avec lesquels on se sent à l'aise et où, au final, on va rester dans une petite créativité avec des choses qu'on a déjà vues, déjà entendues? Est-ce que c'est pas un peu un choix de facilité? Comme tu dis, on va pas forcément vers les jeux qui nous demanderaient de faire des efforts d'imagination plus grandes et quelques recherches à côté, etc. Thomas?
Juste avant de te répondre, je veux juste revenir sur ce qu'on a zappé le dernier truc là. Concernant le cadre, en fait. Créer, c'est imaginer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imaginer? Encore une fois, c'est un peu compliqué. C'est presque, je dirais, c'est créer des choses qui n'existent pas. Bon, j'ai tendance à penser que tout existe de façon potentielle, hein. Je veux dire, le monde, c'est un assemblage d'atomes et d'électrons, et sous forme potentielle, absolument tout existe, hein, y compris des éléments de la table des éléments qui sont encore pas là. Au début, il y avait je sais plus combien d'éléments, et puis il se trouve qu'on a réussi à en créer des nouveaux. Parce qu'il y en a, qui jouent avec des atomes. Hein. Je vous le conseille pas, ne faites pas ça chez vous. Donc, tout existe déjà. Mais bon, on va dire que grosso modo, imaginer, c'est créer des choses, certes, qui existent déjà sous forme potentielle, mais on a quand même suffisamment mis notre marque pour que ça a un petit air inédit. Et par exemple, on voit le Lego. Il y a un moment où le jeu Lego devient complètement différent. Au départ, les Lego c'était juste des boîtes avec des briques à l'intérieur, il n'y avait pas de plan. Et là, les gens ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient, quoi. Et là, on était vraiment dans l'imagination. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime les maisons, donc je vais construire des maisons en Lego et tout. Alors, c'est évident que ta maison, sans doute une maison que tu fais en Lego, pas forcément hyper originale, mais je pense que chacun, quand même, mettra les briques d'une façon différente, il mettra un peu de lui. Il y en a qui vont faire des maisons sans fenêtres. Il y en a qui, au contraire, vont mettre des maisons avec 5 cheminées. Il y en a des maisons avec des roulettes. Et donc, comme tu disais, chaque jeu propose un champ des possibles qui va être différent. Alors, tu vois, déjà, les Lego, quand on sort un plan, Ben, c'est presque plus un jeu, quoi. Enfin, ce qu'on appelle un jeu de construction, quoi. Où je vais pas non plus dire qu'on n'est pas du tout créatif quand on monte une maquette de Lego, ne serait-ce parce qu'on commence pas tous de la même façon. Mais bon, la créativité, j'ai du mal à la voir à fond, quoi. Heureusement, ce qui les rattrape avec les Lego, c'est qu'au dos de la boîte, il y a des exemples de maquettes alternatives.
Différents choix.
C'est une façon de dire aux petits jeunes, hein, on lui donne. Tiens, je te donne un plan, mais s'il te plaît, vas-y, balance le plan, quoi, et fais ce que tu veux.
Mais tout en proposant quand même d'autres idées. Donc ouais, encore une fois,
tu proposes un champ de possibles qui est réduit. C'est-à-dire que, n'empêche que dans ta boîte Lego, tu n'as qu'un certain nombre de briques, tu ne peux pas faire absolument ce que tu veux, quoi. Donc, mais c'est ça qui va... ça donne une piste par où commencer, quoi. Alors, Et donc, l'idée, en fait, ce qu'on te propose, c'est d'explorer ce champ des possibles, justement. Dans le jeu de rôle, on a dit que c'était l'espace le plus large, mais bon, il y a quand même un cadre. Je veux dire, si je joue à Shadowrun, c'est un univers cyberpunk où on joue des elfes et des orques. Tu as ce cadre-là, quoi. Tu peux pas t'amuser à dire que ça se passe dans le passé, alors que le jeu il se passe dans le futur.
Pourquoi pas ?
Ah, mais t'es un fou, tu me casses tous mes arguments, toi.
désolé, c'est juste. Sur le jeu de rôle, on peut jouer le cadre. Après, il faut que tout le monde soit d'accord.
Tu joues pas le même jeu. Enfin, si t'as décidé que Shadowrun c'était dans le passé, c'est qu'on a changé de jeu.
C'est l'acte créateur ultime,
je suis bien d'accord.
Je sais pas si tout le monde est familier avec Shadowrun, mais c'est un jeu qui se passe. Donc, c'est un jeu cyberpunk avec des races de fantasy, des elfes, des nains et de la magie. Et plein d'autres petites saloperies, toutes plus sympathiques que les unes que les autres. Mais j'imagine qu'on peut jouer à Shadowrun et imaginer un sort qui te ramène à un endroit. Il y a plein de choses chamaniques, il y a plein de.
Donc, soit on va chercher en fait la justification pour dire qu'on joue bien au jeu, soit effectivement, comme dit Isabelle, on décide de changer de jeu. Ce qui est aussi effectivement un acte créateur en soi.
Mais après, ce sont des jeux très particuliers où justement on peut jouer avec le cadre. Là, il y a plein de jeux où on joue dans le cadre et il y a des jeux. Où on joue avec les limites même du jeu. Donc c'est peut-être un cas particulier. Enfin, ça, je crois pas que ça remette en cause tout ce que tu dis. C'est juste le joueur de Shadowrun qui s'est dit. Hein.
J'ajouterais juste un détail, c'est que c'est aussi dépendant de ta volonté en termes de processus de narration. Si t'as envie que tes joueurs fassent un flashback comme tu vas en voir dans un film, quelle est la limite que tu vas t'imposer pour le faire, quoi. Enfin, je vois vraiment pas de raison. Et effectivement, pour moi, utiliser ces outils qui existent dans le roman, dans le cinéma, etc., pour une narration que je propose à mes joueurs, je trouve ça particulièrement sympathique, en fait.
Alors, pardon, vas-y, Thomas.
Ouais. Ce que je voulais dire, et vous l'avez très bien illustré, c'est que créer, c'est explorer, c'est aller chercher des expériences en fait, qui vont nous nourrir après. Et donc, l'idée, c'est que le jeu, c'est un cadre pour explorer. Donc déjà, il y a souvent plein de choses à faire à l'intérieur du cadre, que ce soit un plateau de jeu, ce qu'il y a proposé dans un jeu vidéo, un plateau d'échecs, quoi. Je veux dire, quand vous jouez aux échecs, c'est vraiment de l'exploration, quoi. On va aller explorer le terrain, et qu'est-ce qui se passe si j'avance tel pion et tout. Donc voilà, créer, c'est explorer, soit à l'intérieur du cadre, ou soit, comme tu le fais bien remarquer, Jérôme, souvent c'est aussi... les explorateurs, ils ont toujours envie d'aller voir la frontière, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe à la frontière ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du mur bleu, écran bleu, là ? Qu'est-ce qui se passe quand on va là où c'est pas codé par le jeu, quoi ?
Pourtant, avec les échecs, c'est peut-être le jeu où les joueurs se permettent le moins de faire n'importe quoi aux pièces. Et à part peut-être dans Big Bang Theory, on s'amuse très très peu à inventer des variantes aux échecs, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être aussi des jeux qui sont...
C'est pas forcément des variantes, je ne suis pas spécialisée des échecs, mais je pense qu'il y a des traités, des écoles, des gens qui se prennent la tête sur des stratégies hyper compliquées, qui ont planifié 150 coups à l'avance. Je pense que c'est une forme à contrainte, mais il doit y avoir moyen de trouver la stratégie qui va aller plus vite, plus fort que la stratégie lambda, quand vous avez appris à l'école, quoi.
Tu voulais réagir aussi, Isabelle.
Oui, mais je pensais que... j'en profitais pour revenir sur la question de la facilité et ce qu'avait dit Thomas. Je pense que dans le jeu, il y a... Enfin, je suis peut-être un peu optimiste sur la nature humaine, mais on va dire que je vais être optimiste. Je pense qu'il y a une tendance aussi à vouloir se dépasser les limites, dépasser le cadre. Et je pense pas qu'il y ait de facilité... Enfin, oui, si j'ouvre mon PC, je joue à Candy Crush, effectivement, c'est la facilité. Mais même dans Candy Crush, si on voulait vraiment faire de la facilité, on resterait au level 1. En fait, il y en a 400 ou 500, je ne sais pas, je n'ai pas été jusque-là. Et, Et il y en a qui sont vraiment pénibles, quoi. Donc, voilà. Et si on voulait chercher la facilité, on jouerait toujours aux petits chevaux. On n'aurait pas inventé Respublica. On ne jouerait pas aux jeux de rôle. Et voilà. Et je pense qu'il y a une dimension dans le jeu qui est fondamentale et qui va contre la facilité. C'est l'agonistique. C'est le fait d'être en compétition d'une manière ou d'une autre. Alors, avec soi-même, par exemple, le meneur de jeu va essayer de faire encore mieux que la dernière fois. Les joueurs vont essayer de faire encore plus fort, de tuer encore plus de monstres. Et je pense qu'il y a une dimension de progression, de compétition. Je suis peut-être un peu...
En fait, je crois que c'est surtout sur l'aspect social du jeu. Enfin, moi, ce que j'ai rencontré adolescent, je fais du jeu de rôle adolescent. Oula, il n'y a pas grand monde qui fait du jeu de rôle adolescent autour de moi. Alors, comment je vais essayer de les appâter? Je vais le faire de manière très simple. Je vais essayer de raisonner en fonction de... Alors, à l'époque, on était très communautarisés. Dans les années 90, il y avait les gothiques, il y avait les rappeurs, etc. Bah, mine de rien, ça m'a permis de pouvoir toucher, exemple, vampire, pour les goths. Bah, voilà, je vois un mec avec du cuir et des bottes qui montent jusque-là. Dis donc, ça t'intéresserait pas Voilà, c'est, mine de rien, cette facilité-là, je m'en suis servi, mais uniquement pour des raisons sociales. Et après, une fois qu'on est ancré, on peut... Enfin, je l'ai attrapé. Hein. On peut commencer à explorer d'autres univers.
T'es un vilain, toi. Tu vends la créativité à tes patrons et tu vends du jeu de rôle à des gothes.
Tu sais même pas... J'ai vendu ma mère depuis. Ah.
Est-ce que je peux te la rendre, justement?
Désolé.
Et alors, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu utilises une base qui, pour la personne que tu as en face, paraît évidente. Finalement, il va être à l'aise dans l'univers vampire et tu en profites pour l'amener vers d'autres choses, lui présenter d'autres défis.
Oui, mais pour son bien.
Toujours. Au niveau de la formation adulte, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup pour pousser les gens vers l'avant pour,
Ben en fait, voilà, je vais simplement expliquer le contexte dans lequel j'interviens en formation. Le travail que je fais, c'est essentiellement autour d'entreprises qui vont avoir une grosse activité de relations clients. C'est pas forcément quelque chose auquel on est formé au sortir du lycée, même tout au long de sa vie. Et donc, du coup, il y a des codes à respecter pour éviter le conflit. Et moi, l'intervention que je vais faire, c'est dans on va dire, prévenir le conflit ou encore le désamorcer quand il commence à exister. Et donc là-dedans, je vais énormément mettre en place du jeu de rôle sous forme de mise en situation. Et effectivement, c'est grâce à ça, quelque part, que je vais remporter l'adhésion auprès de mes convives. C'est un peu ça qui va se produire. Donc effectivement, je m'en sers professionnellement énormément pour les réimpliquer dans leur quotidien au travers de ces mises en situation, où je vais avoir un groupe qui va interpréter plusieurs rôles, etc. Des mises en situation prédéfinies ou qu'ils vont définir eux-mêmes, parce qu'ils ont envie de travailler là-dessus. Mais c'est quelque chose qui va me permettre de remporter l'adhésion sur le discours. Et c'est pas particulièrement de la manipulation. Hein.
Et donc, du coup, dans ce cadre-là, moi, ça me fait un peu penser aux travaux de Stéphane Dagneau, qui a travaillé sur le jeu de rôle formatif, et qui notamment dit qu'un des grands intérêts du jeu de rôle, c'est de donner une certaine autonomie, en fait, en laissant les gens prendre en main le jeu, et du coup, de façon à leur faire prendre en main ensuite leur contexte professionnel, etc. C'est quelque chose que tu ressens aussi?
Bah absolument, en fait, dans les processus de formation en général, on cherche l'implication. Donc quand on cherche l'implication, on va forcément passer par des outils de cette nature qui vont obliger la personne à raisonner seule face à une situation complexe. Et donc à différents degrés, hein, mais sur une simple situation de conflit, effectivement, il va falloir mettre en œuvre une situation donnée, hein, ce que dans le jeu de rôle on va appeler un background, et à partir de là, une interprétation de rôle va être nécessaire pour s'impliquer.
Isabelle, c'est quelque chose que tu utilises en tant qu'enseignante aussi?
Alors, dans l'enseignement, il y a un truc, alors j'avais essayé d'en faire une, mais c'est compliqué, qui a pas mal le vent en poupe, c'est ce qu'on appelle la simulation globale. Alors, la simulation globale, en gros, c'est un jeu de rôle à l'échelle d'une classe qui peut durer, alors de préférence un peu de temps, un trimestre, enfin au moins un mois, un trimestre, voire un an, où la classe est un groupe. Alors j'ai une collègue qui fait ça, où c'est, alors elle est prof d'anglais et elle avait fait ça en collaboration avec un prof de français. Où en gros c'était Lost, hein, donc c'était des passagers d'un avion, ils sont écrabouillés sur une île et alors ils sont pas, il y avait deux groupes hein, parce qu'il y a des semaines A, des semaines B, des choses compliquées comme ça, et donc ils étaient chacun à un bout de l'île et il faut que ils discutent entre eux. Or ils sont tous d'une nationalité différente, donc il faut qu'ils parlent anglais, ça c'était l'artifice anglais évidemment. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur un système de gouvernement, un système d'organisation. Éventuellement, ils essayent de communiquer avec l'extérieur, etc., etc. Donc ça, voilà. Alors moi, j'ai découvert un truc très très rigolo. Les élèves sont formidables. Quand on leur dit, on va faire un oral blanc. Alors là, il n'y a plus personne. C'est la catastrophe. Tout le monde a les mains moites. Donc je suis arrivée, j'ai dit, bon, alors on va faire une simulation d'oral, ce qui est quand même sauvagement la même chose. Et donc. Ah ben alors là, du coup, voilà, je les ai mis derrière la porte, le candidat doit frapper, je lui ouvre, je lui demande sa carte d'identité, sa convocation, bref, on fait ça comme le vrai jour. Et comme ça ressemblait à du jeu de rôle, c'est passé comme une lettre à la poste, alors que c'était quand même pile poil pareil. Voilà, et donc, maintenant je m'en sers pour décrisper le premier oral de français, parce que quand on leur dit simulation d'oral ou jeu de rôle, ils trouvent que c'est tranquille, alors que si on leur dit oral blanc, ce qui est quand même la même chose, il n'y a plus personne.
Thomas, tu voulais réagir ?
Ouais, donc en fait, je pense que la plupart des jeux cherchent à développer une compétence. Alors je parle pas forcément des serious games, hein, mais si on veut, quand tu joues à Tetris, le jeu te fait développer une compétence, quoi. Je sais pas à quoi ça peut servir dans la vie réelle, mais ranger des trucs, ouais, voilà, et le faire très vite. Hein. Ranger des trucs qui tombent du ciel, rapidement. Et en fait. Comme vous l'avez expliqué, l'avantage du jeu, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Souvent, ce qui nous bloque pour accéder, c'est les nouvelles expériences qui vont nous faire nous améliorer, développer des compétences, tout ça. Et souvent, on peut éviter d'aller vers de nouvelles expériences par peur. Et en fait, le jeu va désamorcer cette peur. Bah, je pense que ton exemple de l'oral blanc, de la simulation d'oral, c'est en fait, t'enlèves un paramètre, c'est que t'enlèves la peur, quoi. Ils n'ont rien à craindre. Il ne va rien se passer s'ils ratent. Bon, après, je suppose qu'on pourrait nuancer ça, puisque y a des fois, il peut y avoir une pression sociale importante à l'intérieur d'un jeu. Mais c'est pour ça que les personnes qui animent les jeux doivent toujours s'arranger pour que cette pression sociale soit désamorcée. Parce qu'à partir du moment où tu es dans un jeu contre ton gré, ça n'est plus un jeu pour toi. Si par exemple ton père, il t'oblige à jouer aux échecs parce que lui, il adore ça, mais que toi, juste, tu ne peux pas supporter, ben, tu ne joues pas, quoi. Tu manipules des pièces d'échecs sous la contrainte, mais tu n'es pas en train de jouer. Et bon, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, en quelque sorte, créer, c'est gagner. C'est-à-dire que, en fait, le jeu, il va t'amener à utiliser ta créativité comme un outil pour te sortir de situations fictionnelles, quoi. Chez les jeux, c'est des situations fictionnelles. Et grosso modo, un jeu, c'est essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas.
Mais qu'on peut rencontrer finalement.
Ouais, t'as plein de gens qui vont te dire ce que le jeu a pu leur apporter après dans la vie, qui leur a servi plus tard.
Jérôme ?
Il y a une définition, enfin il y a plein de définitions du jeu et il y a une, moi je trouve, des plus efficaces pour s'en servir concrètement sur la création de jeu. C'est justement c'est un mec qui s'appelle Suite et qui dit qu'en fait jouer à un jeu c'est c'est jouer avec des contraintes qui sont pas nécessaires ou indispensables. C'est se fixer des contraintes qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir et jouer avec. Je vais reprendre un exemple. Alors, tu parlais du fait que t'apprenais une compétence avec des jeux. C'est clairement le cas. L'exemple le plus évident, c'est sans doute le sport, encore une fois, où clairement, on devient meilleur, quoi. Enfin, en général, des fois, on a des accidents. Et un exemple de contrainte qui n'est pas nécessaire et qui est assez évident, c'est celui de la course à pied. Je ne sais pas comment vous faites, mais si vous devez faire, si on vous dit d'aller un point B, vous amusez pas à faire le tour du stade, quoi, vous y allez direct. Le fait de dire non, vous faites le tour du stade, vous commencez à créer le jeu. Et si en plus vous faites un truc du genre il faut y aller plus vite que le copain d'à côté ou. On va mettre, je sais pas, celui qui gagne, il va avoir une médaille. Et si possible, vous allez être plusieurs. Tout ça va rajouter, ça va créer le jeu presque de façon organique. Ces contraintes, c'est presque la condition minimale pour qu'il y ait le jeu. Et après, faut s'assurer pour que ce soit intéressant. Enfin, il y a plein d'autres contraintes, mais c'est la base. Le reste vient tout seul.
Isabelle ? Isabelle.
Pardon. Et je pense que c'est l'un des ressorts d'ailleurs de ce qu'on appelle la gamification aujourd'hui, c'est-à-dire que le jeu envahit nos vies parce que finalement, on finit par transformer les contraintes qu'on est obligé de faire en contraintes ludiques. Alors ça marche plus ou moins. J'avoue, je joue à Habit RPG. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un truc vraiment très grave. En gros, c'est une to-do list. Vous avez des choses bien ou pas bien à faire, genre, je sais pas, se lever avant 10h le matin, prendre les escaliers, etc. Vous avez une liste, vous créez des quêtes journalières. Donc, je sais pas, moi, lire une page d'anglais par jour, répondre à ses mails, etc. Et puis, il y a des quêtes au long cours, quand même, c'est la to-do list, quoi, le nombre de trucs qu'il faut faire. Et bon, bah, quand vous avez fini, vous cochez, vous gagnez de l'or, des pecs, puis vous avez un petit bonhomme, après, vous pouvez lui acheter une petite épée parce qu'il tape plus fort sur les tâches. Et voilà. Donc, ça, c'est, je pense que c'est le stade terminal.
Absolument que tu montres ça. Hein.
Ah, mais je suis complètement accro. Moi, tous les jours, je vais sur Habit RPG. D'ailleurs, j'ai du mal à franchir le level 19. Et. Voilà, et donc c'est comment transformer le « il faut que je réponde à mes mails » en « il faut que je fasse ma quête pour transformer mes mails et pour gagner mon pex, pour gagner mon niveau ». Voilà, donc c'est ça, c'est transformer une contrainte pénible de la vie en contrainte qu'on s'est un peu fixée, puis on va quand même avoir une petite rémunération.
Voilà, un des gros... la gamification, c'est un sujet, en gros, où il y a de l'argent à se faire, donc c'est un sujet où il y a plein d'experts qui sont arrivés du jour au lendemain, et c'est un sujet où il y a plein de polémiques. Et souvent, enfin, alors moi, je connais pas assez bien, mais je me suis quand même pas mal documenté sur le sujet. Et il semblerait que très souvent, quand on regarde des exemples de cas qui ont réussi ou qui ont échoué, c'est justement sur cette façon de faire en sorte que. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on t'impose un jeu ou des contraintes de l'extérieur, c'est pas du tout la même chose que si toi tu les choisis. Et c'est quelque chose qu'on voit. Alors. Avant de bosser sur des jeux, je donnais des cours sur la motivation en entreprise. Et on retrouve tout à fait ces modèles-là. C'est-à-dire qu'une contrainte qui est choisie ou un objectif qui est choisi par un employé va avoir beaucoup plus d'impact. Et on a un autre moyen d'y arriver qui est à peu près semblable. C'est-à-dire si elle est choisie par quelqu'un d'autre, mais que la personne l'accepte. Et quand on lui dise c'est normal d'avoir ça ou ce serait utile d'avoir ça, et qu'ils disent ok. Et il y a énormément de liens entre le jeu et tous ces aspects-là de motivation. Et c'est clairement pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle il y a des trucs qu'on appelle jeu, il y a des trucs qu'on appelle travail. C'est parce qu'il y en a qui sont chiants, quoi. Non ?
Alors, effectivement. Oui, vas-y, Thomas, bien sûr.
Ben, ça me renvoie à ce que toi, tu t'expliquais aussi sur, sur le jeu de rôle au travail. La créativité, donc j'avais... Bon, d'après moi, c'est transformer en fait, transformer des choses pour s'exprimer. Et donc en fait, j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas être créatif si on n'exprime pas ses propres valeurs. Donc effectivement, si quelqu'un il t'impose ses valeurs, il peut te demander d'être créatif, mais tu vas pas l'être vraiment parce que il va te demander de fabriquer des choses, mais sans t'exprimer toi. Mais là, ce que dit Jérôme et qui est malin. C'est que effectivement, des valeurs, ça peut se transmettre. C'est-à-dire que si tu convaincs la personne que tes valeurs, elles sont bien, enfin d'avoir les mêmes valeurs, eh bien peut-être que là, il va accepter d'être créatif pour toi. Bon après, je sais plus quel chef d'entreprise qui avait cette phrase-là, c'est dépêchez-vous de réaliser vos propres rêves, parce que sinon, quelqu'un va vous payer pour réaliser les siens à sa place. Donc c'est à vous de voir. Exactement d'où est-ce que vous allez chercher vos valeurs. Mais bon, le jeu, c'est une façon aussi quelque part, c'est une façon de vendre des valeurs, quoi.
Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Vous voulez réagir là-dessus ? J'aurais aimé qu'on aborde un petit peu, parce que Jérôme a utilisé un mot que je trouvais intéressant hors micro, c'était le mot festif, et c'est vrai que la plupart... Alors, on a parlé un petit peu de... Excusez-moi, arrêtez de rire. On a parlé un petit peu de l'aspect collectif du jeu, même si effectivement on peut se donner des objectifs à soi-même pour se dépasser, pour faire ses tâches, lire souvent, ses mails, etc.
Souvent ils sont collectifs, hein, les objectifs.
Mais très souvent c'est collectif. Est-ce que vous pensez que la créativité ça a quelque chose, un caractère collectif aussi? Notamment le fait qu'on crée par exemple avec le jeu de rôle une fiction ensemble,
En fait, je vais répondre dans le champ professionnel, dans un premier temps. Quand on parle de créativité, ce que je disais au tout début de la table ronde en entreprise, c'est on vise des objectifs de marché et de développement. Ça, en entreprise, on fait jamais ça seul, quoi qu'il advienne. On a forcément besoin d'une infrastructure avec des compétences diverses, variées, une capacité à communiquer ensuite, une fois que les choses sont implémentées. Et ça, ça nécessite forcément une notion de collectif. Et qui plus est, un jeu, sauf quand j'étais gamin devant ma Game Boy, mais désormais, il existe de moins en moins de jeux qui soient pas sociabilisants, en fait. Dès lors qu'on a été connecté avec notre câble Ethernet à un réseau, à partir de là, quasiment tous les jeux ont intégré une dimension qui était sociale et qui nécessite du coup du collectif.
Les autres sur cette notion de...
La créativité, grosso modo, c'est s'exprimer. Et souvent, la plupart des gens, pour s'exprimer, on aime bien avoir un public pour que ça ne semble pas vain. Et donc c'est vrai, je pense que cette dimension collective là dans le jeu s'explique parce que justement on va exprimer des choses que les autres vont recevoir, on va échanger en fait. Et puis bon, souvent la plupart des jeux proposent justement de se mettre ensemble pour résoudre un problème commun, quoi. Donc voilà, vraiment créer c'est partager, et puis surtout créer c'est s'adapter. Généralement on s'adapte mieux à plusieurs.
Effectivement. Donc tu dis en fait il y a une double dimension, à la fois sur un aspect public, puisque voilà, créer pour soi-même c'est pas intéressant.
Ça peut l'être. Ouais. Tu prends l'art thérapie par exemple, c'est vraiment de la création pour soi. C'est très important de créer pour soi, mais je pense qu'à un moment on a aussi envie que ce soit reçu par d'autres personnes.
Isabelle ?
Oui, je pense que le jeu, alors quel qu'il soit, ça dépend quel qu'il soit, mais enfin souvent c'est vrai qu'il y a une dimension collective. Et souvent, quand on crée quelque chose, c'est une espèce de petite maison. Chacun amène une petite pierre, et puis il y en a un qui prend sa petite pierre, qui la remet ailleurs. Il y en a un qui met un peu de ciment, et puis finalement, on arrive à un truc qui est la résultante de toutes les petites pierres de tout le monde. En fait, comme dans le monde réel, l'entreprise, ça dépend des entreprises et autres.
En fait, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un modèle qui est assez impressionnant sur la transposition du jeu, par exemple vidéo, qui était quelque chose de très individuel. Hein. Par exemple, j'étais devant mon porte-monstre trésor chez moi, j'en parlais avec mon pote qui était dans le coin, et puis on se disait où on en était. Ça, c'était déjà sociabilisant. Même chose avec Wipeout ou ce genre de choses, quoi. C'était des niveaux, et on comparait nos réussites. Ceci étant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous a proposé de nous placé dans un univers plus grand, en fait. Une plateforme comme Steam, c'est exactement ça. On va pouvoir regarder les succès des autres, etc. Et même sur des jeux où on joue seul, on va quand même aller comparer. On va forcément s'intégrer dans un environnement social plus large, plus vaste.
Et parfois, autant sur la compétition que sur,
collaboration. Sur la coopération, ou ce genre de choses.
Et vous pensez qu'il y a... Pardon, Jérôme, je te coupe la parole.
Juste sur le... Quel que soit le jeu, en fait, on se confronte à quelque chose. A priori, une règle, n'importe quoi, c'est on va exprimer, alors je sais pas si c'est la créativité ou du jeu, on va bouger face à un truc qui est solide, on va se confronter à une règle, à un cadre, enfin peu importe, quel que soit le jeu. Techniquement, prenez l'exemple des jeux vidéo, mais c'est le cas sur plein d'autres trucs, le moyen le plus simple et le moins cher de faire quelque chose d'intéressant, c'est de mettre quelqu'un d'autre en face. Les premiers jeux, sauf erreur de ma part, alors je sais plus si c'était le cas pour Space War, mais pour Tennis for Two, des trucs comme ça, si je me trompe pas, on y joue à deux. Et j'en sais rien, Pong, on y joue à deux, il me semble. Hein. Y a plein de trucs comme ça, et c'est pareil sur la plupart des autres jeux, c'est le plus simple. C'est pareil sur la plupart des sports, etc. L'autre élément, comme tu le disais, quand on en parle les uns les autres, c'est que le jeu est beaucoup plus accepté dans la culture. Il y a une génération, peut-être deux générations, je ne sais pas. Le jeu, en gros, qui faisait ça, c'était les gamins et les vieux dans la maison de retraite, pour ceux qui allaient, quoi. Vous aviez plein de gens qui jouaient aux mots fléchés quand ils prenaient le train, qui faisaient leur grille de mots croisés le dimanche. Enfin, moi, j'ai des oncles comme ça, et je peux vous assurer que s'amuser à le remplir à leur place, c'était pas une très bonne idée. Et ces gens-là, en fait, allaient pas du tout se voir comme des joueurs. Pour eux, c'était juste pas possible. Le jeu, c'était quelque chose de frivole. Aujourd'hui, on fait partie d'une génération où, où c'est intégré de jouer. On parlait de communauté adolescent, même le jeu de rôle qui était plutôt ostracisé avant, maintenant c'est relativement cool de jouer au jeu de rôle. On peut faire ça et être quelqu'un d'équilibré à côté, on n'est pas obligé de... Non, c'est bon, j'allais dire de s'habiller en noir, mais... finalement un peu quand même. Aujourd'hui ça fait partie de la discussion, le jeu. Aujourd'hui, on peut regarder la télé et puis entendre parler de GTA, et pas juste GTA parce que c'est violent, mais GTA parce que ça se fait du pognon. Et GTA parce que ça se fait du pognon, ça a l'air réducteur, mais c'est la première façon d'en parler positivement. Donc il y a aussi cette dimension.
Donc une justification du jeu pour l'adulte, enfin une justification même plus que ça, une légitimisation du jeu pour l'adulte.
Oui, maintenant on peut même en parler du jeu, sans forcément demander à des médecins ou des gens qui nous parlent de ces gens bizarres qui jouent. C'est plus du tout la situation.
Alors on a peut-être encore une ou deux petites minutes pour des questions dans la salle. Je vois déjà des mains qui se lèvent.
Bonjour. Est-ce que vous pensez que gains et récompenses sont indispensables au terme de jeu ?
Je vais répondre par un jeu lui-même. En fait, j'ai découvert l'an dernier, au gré des Utopiales, un jeu qui s'appelle Concept. Et en fait, ce jeu propose, dans ses propres règles, de finalement n'utiliser que la mécanique de jeu, sans pour autant les récompenses en tant que telles. Que finalement, l'intérêt, c'est plus de jouer que de gagner. Et j'ai été assez étonné par ça, et au final, effectivement, c'est à ça que je joue. C'est un jeu qui ne me propose aucune récompense. La seule récompense, c'est un peu comme les mots fléchés dans ce jeu concept. Je pense qu'il sera en démonstration, peut-être. Mais en tout cas, l'intérêt de ce jeu, c'est effectivement d'être un peu 7-77 ans et de proposer plus un exercice intellectuel qui est une récompense en soi, que la récompense à terme. Je ne sais pas si ça répond à la question.
D'autres questions ?
J'avais une question à propos de ce que vous disiez sur l'espèce de graduation. Le jeu de rôle, c'était plus un jeu que les jeux vidéo. Enfin, c'est un peu caricatural, mais voilà, c'était plus liberté. Et je me demande si, par rapport à la définition que vous avez donnée du jeu de rôle, est-ce que le fait d'avoir une intelligence artificielle, un système... disons de règles gérées par ordinateur, ça permettait pas de simplifier le côté un peu table D qui parfois peut être lourd dans le jeu de rôle, et d'un certain côté le jeu vidéo pouvait apporter une espèce de libération en permettant de gérer toutes les contraintes matérielles un peu embêtantes d'aléas, de règles, etc., pour permettre justement de se concentrer sur la partie un peu intéressante, c'est-à-dire de créer des rôles, de jouer des rôles.
Alors en fait il y a Alors tout d'abord, on n'a pas besoin de tous ces éléments qui sont difficiles à gérer pour faire du jeu de rôle. Pour faire du jeu de rôle, il suffit de s'imaginer dans une situation. On n'a même pas besoin d'utiliser un personnage. Enfin si, mais le personnage, ça peut être soi. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je ferais ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question « et si ?». Quelque part, il suffit presque d'un pitch et de se projeter pour faire du jeu de rôle. Après, l'autre élément, c'est que sur la partie intéressante, en enlevant les règles, on va dire, ou la partie mécanique, à titre personnel, je pense que c'est une erreur, parce que je pense qu'il y a énormément d'éléments, même de fiction, c'est-à-dire de ce qu'on raconte, enfin de ce qu'on appelle d'habitude l'histoire, qui viennent de ces éléments-là, que la mécanique, d'habitude, qu'on oppose à tout ça, la crée. Si vous avez déjà fait une partie de jeu de rôle, que ce soit sur n'importe quel support, normalement, vous ne réagissez pas pareil quand votre personnage est quasiment à zéro point de vie que quand il est à plein. Et dans l'univers, il n'y a peut-être pas de différence. Par contre, cette simple différence mécanique, elle fait que vous n'allez pas du tout le ressentir de la même façon. vous allez peut-être faire un dernier barreau d'honneur, vous allez peut-être vous planquer, vous allez peut-être vous comporter comme un crevard avec la personne qui vous ramène ce soir-là chez vous en essayant de lui piquer sa potion. Et ça va compliquer pas mal de choses après. Enfin, il peut se passer plein de choses à cause de cette petite différence mécanique. Cela dit, enfin, il y a... Donc, je pense vraiment que l'opposition n'est pas si nette que ça. Mais oui, si on peut la déléguer, si on peut s'en extraire, il faut juste faire attention à ce qu'en rendant le jeu plus simple, on ne le rende pas plus pauvre. C'est pas systématique, c'est pas symptomatique. Il faut juste faire gaffe à ça, sachant que c'est pas. On peut apprécier de jouer avec des jeux peu complexes et simples. Il faut juste faire gaffe à ce qu'on coupe, en fait.
Moi, je pense qu'il y a aussi un plaisir de la mécanique. Enfin, alors, moi, je ne suis pas...
Juste en quelques mots, parce que...
Pardon, je ne suis pas une grosse fan des jeux à mécanique, des jeux de rôle à mécanique très lourd, mais enfin, moi, je suis une extrémiste qui aime bien soit jouer pour la fiction, etc. Mais je pense que la mécanique a un plaisir en soi-même. C'est-à-dire que moi, dans le jeu vidéo, ce que j'aime bien, c'est justement tripoter la mécanique. Finalement, la fiction, ça ne m'intéresse pas.
Bon, merci à tous. Donc, merci à Jérôme, Thomas, Isabelle et Eric. N'hésitez pas à poursuivre au pôle ludique avec vos questions. Bonne journée.